l'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Je vous rappelle, Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière avec nos invités. Cette semaine, un numéro spécial best-of. Je vous propose de retrouver pendant 45 minutes les meilleurs morceaux de ce qui se passe sur Radio Patrimoine. On démarre tout de suite avec l'interview de Patricia Petria, la déléguée générale de la compagnie des CGP. Elle nous parle des enjeux de la convention de l'association qui aura lieu le 18 novembre prochain à Paris. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans le Zoom de l'Info, on accueille Patricia Petria. Bonjour Patricia.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes déléguée générale de la compagnie des CGP, une des associations des conseillers en gestion de patrimoine. Et vous venez nous présenter votre convention qui aura lieu dans très peu de temps, le 18 novembre.
Tout à fait Fabrice. La compagnie des CGP, donc notre fédération, organise sa convention annuelle, cette année sous un registre un petit peu différent, puisque d'habitude c'était toujours jumelé avec nos assemblées générales. Et bon, cette année, comme Covid oblige, on n'a pas pu tenir ça dans les temps juridiques pour les assemblées qui devaient avoir lieu avant le 31 juillet cette année. Et donc, on a quand même décidé, pour une question de convivialité, et puis parce qu'on va être super content de revoir nos adhérents en vrai, pas derrière le téléphone ou derrière une visio. Et donc, on a décidé de maintenir cette convention annuelle qui aura lieu le 18 novembre à Rive-Montparnasse.
Rive-Montparnasse, 44 boulevard de Vaugirard, en plein 15e. Hein. L'idée, comme vous le disiez, c'est aussi partager un moment de convivialité. C'est vrai que ça fait longtemps, on a dû reporter des événements, ou en faire beaucoup en visio. Je crois que vous avez été très actif de ce côté-là. Mais là, il y a un plaisir, une nécessité presque de se revoir en réel.
Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les échanges qu'on a pu avoir en visio, c'était un maintien de contact obligatoire. Et puis, là, ça ne remplace quand même pas le B2B, de se voir, de se serrer la main, parce qu'on essaie de se resserrer la main. Bon, là, ça ne sera pas tellement autorisé à Rive-Montparnasse, parce qu'on a quand même encore quelques contraintes sanitaires, contraintes de port de masque, contraintes d'avoir le pass ou pouvoir donner un test PCR. Mais en fait, on va pouvoir échanger et c'est quand même sympa d'échanger. On est des humains. C'est bien, le digital nous a accompagnés et était d'un grand secours et on voit toute l'utilité de cet outil, surtout dans des périodes comme celles qu'on vient de traverser. Mais rien ne remplace le présentiel.
Ouais, exactement. Quand même, à le souligner, hein, votre président, Philippe Feuille, très attaché justement à cette relation et au contact. On le sait. Alors justement, Patricia, avec vous, on regarde quels vont être les temps forts de cette journée.
Alors, on a plusieurs temps forts. On a déjà notre introduction où Philippe va parler des actions qu'on a menées en 2021 et de l'avenir, de tout ce qui est prêt pour 2022 et tout ce qu'on va pouvoir développer. Et puis, on a la chance d'avoir la participation de Lionel Corr, sous-directeur des assurances auprès du Trésor, qui nous accompagne déjà depuis l'année dernière et qui a eu la gentillesse de réitérer cette année pour nous faire un petit point sur cette fameuse réforme du courtage. Bien entendu, il y aura peut-être d'autres termes qu'il abordera, mais bon, ça va être un des principaux. Et puis après, on a une table ronde qui va être animée par Jean-Charles Némy sur le climat et gestion de patrimoine. Quel rapport? Pourquoi vouloir s'en occuper avant de devoir s'en occuper? Ouais. Donc, c'est une table qui est plutôt générique. Ça sera finance, mais pas trop. On va étendre, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus large. Voilà. Mmh.
Des thèmes très intéressants. On sait que les Français sont de plus en plus attachés à faire vivre leur épargne, à la rendre utile en ce moment.
Tout à fait. Alors, c'est un fil vert qu'on a développé, nous, sur l'ESG, l'ISR, tout au long de l'année 2021, puisqu'on en a fait le temps fort de nos séminaires de formation. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que d'une part, l'AMF s'y intéresse beaucoup, a déjà introduit des questions dans son examen certifié et on pense qu'ils vont programmer quelque chose de type certificat finance durable pour dans pas très longtemps, horizon 2-3 ans. C'est notre ressenti en tout cas. Et puis deuxièmement, parce que à la compagnie, vous l'avez noté, Philippe et ses équipes dont je fais partie, on est tourné vers l'humain. Donc l'humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi laisser un avenir meilleur à nos enfants, essayer autant que faire se peut d'épargner la planète ou tout au moins de réduire les conséquences désastreuses du réchauffement climatique, avec des pistes qu'on donne à nos adhérents pour bien les sensibiliser et puis pour les aider à à tirer le bon grain de livret de façon à ce qu'il soit plus à même de sélectionner les bons produits, voilà.
Ce qui est pas du tout évident dans la jungle des labels, effectivement, il faut pouvoir trouver et trier pour évidemment les meilleurs produits pour ses clients. Il y aura bien sûr des moments de convivialité à part ces tables rondes.
Il y a des moments de convivialité parce que comme tous les ans, on est accompagné par des partenaires. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus diversifiés. Alors, on n'est pas là pour faire un grand rout. On est une association. Notre fédération vient de passer les 600 adhérents. On est très content d'avoir passé cette barre que Philippe s'était mis un peu comme objectif pour son mandat. Donc, on va avoir des échanges avec nos partenaires, un cocktail déjeunatoire où les adhérents vont retrouver les partenaires en plus de moments dans la journée, puisqu'on a d'autres thèmes forts, donc là plutôt tournés sur DDA, avec deux formations validantes, une sur un atelier qui va être animé par Pascal Pinault sur l'interprofessionnalité, un axe incontournable de développement, oui, avec un exemple d'un chef d'entreprise et pourquoi on se tourne vers cet axe-là. Et puis une autre table ronde qui sera animée par une de nos adhérentes, Aurélia Clérici, sur la prévoyance patrimoniale des entrepreneurs. Donc, à chaque fois, on sera accompagné de partenaires qui vont débattre sur ces sujets. Et en plus, on a introduit une petite 20 minutes sur RGPD. Parce que on s'est aperçu que la cybersécurité, c'était très important. Il y a eu le développement des arnaques diverses et variées, des usurpations d'identité que nos adhérents nous ont fait remonter, que l'AMF a signalé, la CPR également. Donc en fait, c'est bien de faire une petite sensibilisation là-dessus, de façon à ce que nos adhérents apprennent à se protéger vraiment.
Voilà, en tout cas, ça se passe donc le 18 novembre, cette convention de la compagnie des CGP. On rappelle le lieu, Rive Montparnasse, 44 boulevard de Vaugirard, 75,15 €, Paris. On attend beaucoup de monde.
On attend beaucoup de monde, effectivement. Là, pour l'instant, on a lancé, comme Covid oblige, passe sanitaire oblige, on a lancé des invitations avec des demandes de réponse. C'est une des premières fois qu'on fait ça, mais je pense que c'est utile, déjà pour une organisation logistique, c'est super important. Et puis en plus, on a une petite surprise. À la fin, c'est la première fois qu'on va remettre des certificats d'adhésion aux nouveaux adhérents de 2021. Ça ne veut pas dire que les autres n'auront pas en temps et en heure les certificats, mais il faudra le temps de les faire pour tout le monde, de façon à ce qu'ils puissent... on veut renforcer le sentiment d'appartenance. On est une équipe, on avance ensemble, que ce soit du côté des adhérents, du côté de la compagnie, du côté des administrateurs. On est une vraie équipe et donc on veut le montrer. Et on veut que nos adhérents puissent le montrer à leurs clients aussi.
Eh bien, je pense que ça va se sentir. Merci Patricia Petrigra. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale de la compagnie CGP et on donne rendez-vous à tous vos adhérents à cette convention le 18 novembre à Paris.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Vous êtes bien à l'écoute de l'Hebdo Patrimoine spécial Best of. Tout de suite, on va réécouter deux patrons de fintech visionnaires sur la gestion de notre épargne. Ils étaient avec nous en plateau il y a quelques semaines, Mounir Lagoun, le fondateur de Finari, et Marc Templeman, le fondateur de Cashpi. Ils nous expliquent comment mieux gérer notre épargne et surtout quels sont les outils numériques qui peuvent nous aider au quotidien. L'Hebdo Patrimoine spécial fintech cette semaine en compagnie de Marc Templeman, fondateur de Cashbi, Mounir Lagoun, le fondateur de Finari. Messieurs, on est en pleine discussion sur le fossé générationnel des investisseurs. C'est vrai que si on a moins de 35 ans, on est plus forcément sur une banque classique, mais sur une banque en ligne. Et quand on parle d'épargne, surtout pour les nouvelles générations, Mounir, c'est la crypto qui est dans toutes les bouches en ce moment. C'est vrai que c'est assez phénoménal, ce Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et j'en passe, qui a fait et défait des fortunes, évidemment, notamment pour des investisseurs qui s'intéressent à la tech et à cette nouvelle épargne.
Ouais, complètement. Je pense que la crypto, elle a plein de vertus. Elle est très facile d'accès. C'est très facile de se créer un compte. Les plateformes sont hyper modernes. Il faut aussi savoir que, par exemple, les Coinbase et Binance de ce monde, ils détiennent toute la chaîne de valeur pour exécuter des ordres, etc. Donc en fait, c'est
sont les grands acteurs, les grandes
plateformes.
Les grands,
c'est les numéro un. Binance, c'est le numéro un mondial. Après, il y a Coinbase qui est le numéro un américain. Donc ils ont c'est des boîtes technologiques qui sont partis sur des infrastructures qui sont neuves. Aujourd'hui, quand on veut lancer, par exemple, un broker, enfin une plateforme qui permet de trader des actions, en fait, on va construire sur des infrastructures qui sont existantes et souvent vieillissantes. Donc là, on part de quelque chose de neuf, donc on peut tout réinventer. Et il faut bien dire que le Bitcoin, depuis sa création, c'est 300% par an. Est-ce que ça va durer? Probablement pas. Est-ce que la volatilité va baisser? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs institutionnels, des fonds de retraite, des fonds de pension, des asset managers, des hedge funds qui rentrent dans le marché. C'est en 2018, lors de la dernière bulle crypto, on disait les institutionnels arrivent. Cette fois, ils sont vraiment là, et ils sont là en masse. Et donc, je pense qu'on peut...
Il y a même un tracker, un fameux ETF qui vient de se lancer.
Exactement. Alors, c'est un tracker sur les futurs, sur les produits futurs Bitcoin, mais bientôt, il y aura un tracker sur le produit spot. Et après, il y aura Ethereum. Et après, il y aura des trackers qui feront des indices. Et donc, ça va se normaliser. Et pourquoi pas demain, dans quelques années, je pense que les banques et les acteurs traditionnels vendront des produits crypto. Tout simplement parce que la demande, elle est là. Demande, elle est là, c'est ce qui intéresse. Est-ce qu'il y a de la spéculation? Est-ce qu'il y a des choses qui sont négatives? Bien sûr, mais bon, je pense qu'il ne faut pas rater le message principal qui est, c'est une technologie intéressante, c'est une technologie innovante qui redistribue aussi les richesses. Je pense que les gens qui sont devenus très riches grâce à la crypto, c'est des gens qui ne viennent pas du gotha financier, c'est des gens qui viennent de partout ailleurs.
Et mais donc, vous qui êtes dans la tech, vous avez investi dans le Bitcoin, dans l'Ethereum depuis longtemps?
Oui, depuis longtemps, et c'est la majorité de mon patrimoine aujourd'hui. Alors la majorité de mon patrimoine, c'est Finari, mais bon, pour l'instant, c'est pas concrétisé. Mais aujourd'hui, moi, j'ai investi en crypto, je continue à investir en crypto. C'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé sur.
Je pense qu'en tech aussi, il y a un aspect aussi peut-être nouveau monde quelque part. Je sais pas, il y a Tesla,
ça casse
pour la voiture électrique. Il y a peut-être la crypto qui va arriver. Pour remplacer nos bons vieux euros, dollars et compagnie.
Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que on est quand même, c'est la question de la confiance. Je pense que l'épargne est liée à la confiance. Et donc, finalement, la crypto, le postulat, c'est de dire on va décentraliser cette confiance et donc on n'aura plus besoin de confiance puisque finalement, c'est le code qui va régir notre relation. Et ça, moi, je trouve ça très, très attractif. Et surtout, c'est open source, c'est libre. N'importe qui peut lancer un produit crypto sans avoir jamais signé aucun contrat physique. Et ça libère l'innovation. Et donc ceux qui ne vont pas se lancer dans la crypto finalement risquent de rater un gros train. Après, il faut quand même pas perdre de vue que la majorité des encours, c'est dans les marchés actions, c'est dans des produits obligataires, c'est dans l'immobilier. Mais la crypto, c'est ce qui croît le plus vite. Et moi, je prends le pari que d'ici 5 ans, il y a une banque française qui proposera de la crypto dans ses agences.
Intéressant. Marc, vous, quelle est votre vision là, justement sur ces nouveaux assets, ces nouveaux actifs?
Alors, je partage le point de vue certainement en très grande partie de Mounir. Je pense que quelqu'un qui croit fort comme nous à la diversification et les vertus de la diversification, dans une diversification saine, vous avez normalement des actions, des obligations et pourquoi pas de la crypto. Alors ensuite, j'en souligne quand même les risques et périls, la volatilité est élevée, on rencontre toujours les gens qui ont fait plus 200, plus 400, plus 600%, on parle beaucoup moins souvent à des gens qui fièrement annoncent que leur argent a été divisé par deux.
Moi justement, j'ai l'impression que la crypto, c'est le truc où on investit, le lendemain ça perd 25%.
Du coup les marchés actions deviennent assez ennuyeux en fait quand on est habitué à la crypto.
Ça c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que dans les 400 000 nouveaux investisseurs, alors il y a eu ce creux de marché avec la crise sanitaire qui est arrivée, mars 2020, c'est allé extrêmement rapidement. Et il y a beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, sortis du bois, qui sont dit, des investisseurs déjà actifs, qui sont dit, là, on a une espèce de discount, il faut y aller. Et d'autres qui se sont dit, je prends quand même moins de risques quand le marché vient de faire moins 35%, ou moins 30 ou moins 20, s'ils seraient en avril ou en mai, puisque les valeurs avaient fortement décoté.
Oui.
Et sur ces nouveaux, on a beaucoup de gens qui, effectivement, il y a cette notion aussi, c'est pas pareil d'investir 1000 euros et d'essayer de faire x2, que d'avoir peut-être 100 000 ou 500 000 et de se dire, là, je ne vais pas peut-être tout miser sur de la crypto.
Mais là, vous touchez un point qui est le market timing. Alors, ceux qui sont rentrés en mars 2020, bravo à eux. Mais je reviens sur un point que Mounir a déjà soulevé. Nous, on pense qu'une des plus grandes puissances, une des forces les plus vertueuses pour constituer une épargne, un patrimoine qui grandit dans le temps, c'est d'automatiser la mise de côté de l'argent. Alors, prenez une somme, même faible, ça peut être 50 euros par mois. Quelqu'un qui met de côté une somme donnée pendant 10 ans, mais à partir de l'âge de 25 ans, aura une trajectoire pour se constituer une épargne qui sera très, très, très difficilement rattrapable par quelqu'un qui se met à épargner la même somme à partir de 35 ans. Juste, je vais réexpliquer mon exemple parce qu'il est très parlant. Quelqu'un qui met de côté la même somme tous les mois de 25 à 35 ans ne peut pas être rattrapé en termes de rendement s'ils investissent dans exactement le même actif par quelqu'un qui investit de 35 à 65 ans la même somme. Donc, commencer tôt, c'est clé. Mmh. Commencer avec une régularité, pour nous, c'est une seconde clé. Et ensuite, si vous avez la chance d'être rentré en mars 2020, ben bravo, encore une fois, super. Et pour revenir sur la crypto, oui, il y a sûrement une place dans un portefeuille constitué en fonction de votre goût pour le risque et votre capacité à résister à ce défaut humain qu'on a. C'est quand on voit les choses baisser, d'avoir cette peur qui nous saisit de perdre vue de la décision rationnelle qu'on avait prise à l'époque pour investir dans tel ou tel actif et de vendre. Parce que là, on tombe dans le piège de vendre au pire moment,
c'est vrai. Est-ce qu'il y a des mécanismes justement qu'on peut apprendre, ça, justement, à bien épargner, voire à bien investir, outre le fait de dire à très jeune, je commence et je mets 50 euros, 25 euros, ce que je peux tous les mois. Il y a des choses qu'on va retrouver sur votre plateforme comme ça qui vont pouvoir guider, j'allais dire nudge, un peu donner une petite incitation à faire des choses mieux.
Alors, il y a plein de choses, notamment la simulation dont je parlais tout à l'heure. En fait, il y a deux paramètres qu'il faut renseigner avant de lancer la simulation. C'est combien vous allez épargner tous les mois et sur combien de temps vous voulez lancer cette simulation. Et l'idée, c'est vraiment de montrer la puissance de ce que Marc décrit, ce qui sont les intérêts composés finalement. Oui, et donc, quelqu'un qui est jeune aujourd'hui, il a quelque chose que nous trois autour de la table, on pourra jamais rattraper, c'est du temps. Et ça, c'est même demain, si on investit des sommes énormes, en fait, on aura juste pas de temps. Et donc finalement, je pense que il faut juste expliquer ça, parce que les intérêts composés, c'est un phénomène qui est pas évident à comprendre. Si on ne le connaît pas, une fois qu'on l'a compris, par contre, on comprend que c'est l'arme la plus puissante de apparemment Einstein aurait dit que ce serait la huitième merveille du monde.
La force de l'univers, une des
choses les plus vrai,
puissantes. Les intérêts composés.
Mais en tout cas, c'est la vérité. Et je pense que la meilleure façon d'investir, enfin, de correctement investir, c'est finalement de commencer tôt, c'est de faire quelques erreurs aussi, voilà. De perdre du jour au lendemain 25%, du coup, on se sent un peu bête. Mais du coup, on comprend assez rapidement que le market timing, ça ne marche pas. C'est impossible. Aujourd'hui, celui qui espère encore acheter au plus bas, vendre au plus haut, en fait, il devrait ouvrir un hedge fund. Ou il devrait même pas ouvrir un hedge fund, il devrait gérer son propre argent et n'en parler à personne parce que c'est la martingale. Mais ça n'existe pas. Et donc finalement, il faut investir régulièrement. C'est très ennuyeux, hein. C'est investir régulièrement. Finalement, quand les prix baissent, est-ce que c'est pas un peu comme les soldes? Si les prix baissent dans les magasins, tout le monde y va, mais quand les prix baissent sur les actifs financiers, tout le monde vend. Donc c'est quand même un peu paradoxal. Donc je pense qu'il faut plutôt voir ça comme une opportunité. Surtout si on est jeune. En fait, si on est jeune, c'est pas grave, on a le temps d'encaisser des pertes. Mmh. Et c'est généralement quand on est jeune, on va avoir un salaire qui va augmenter. Donc finalement, c'est pas si important que ça.
Et puis on fera des pertes effectivement peut-être alors conséquentes par rapport à ce qu'on a, mais finalement sur un patrimoine qui est en début de constitution, comme vous disiez, ça se rattrape et normalement ça va plutôt progresser. Oui. Marc, vous vouliez...
Non, c'est la simulation, c'est un outil très ludique pour effectivement s'encourager à épargner mieux. Il y en a d'autres. Il y a lire les bons blogs. Enfin, le sujet de la finance n'est pas nécessairement fastidieux, lourd et difficile à comprendre. Donc, s'intéresser un tout petit peu au sujet peut se faire également. Il y a aussi se donner des objectifs. Alors, l'objectif, ça peut être à moyen terme, s'acheter son premier appartement. Ça peut être à très long terme en disant, moi, je voudrais, à l'âge où je pars à la retraite, avoir 1000 euros tous les mois en plus de la retraite que j'aurais constituée via mon employeur. Bref, on peut se donner pas mal d'objectifs, mettre de côté pour les études de son enfant. Et là, là aussi, des outils comme les nôtres permettent de visualiser et rendre tangible l'effort qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est à 50% de son objectif, 60%, 70%? Encore une fois, on n'est pas en train de gamifier, mais on est en train de nudger, on est en train de s'auto-encourager. Je dis pas que l'épargne est censée devenir un jeu, mais ça peut devenir quelque chose de relativement ludique.
Mais pourquoi pas?
Et c'est un peu comme le golf, quoi. Quand on joue contre soi-même, on essaye d'améliorer son handicap, une fois parti, ça se fait tout seul.
Voilà. Et puis au moins, on voit la performance en espèces sonnantes et trébuchantes.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Hebdo Patrimoine spécial best-of cette semaine. On reparle d'énergie avec un des papes des matières premières en France, Benjamin Louvet, gérant chez Ofiem, nous explique ce qui provoque actuellement la flambée des prix de l'énergie. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le Zoom de l'info, nous accueillons Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes gérant matières premières chez Ofiem. Benjamin, une question d'importance en cette rentrée, c'est le prix du gaz qui n'en finit plus d'augmenter, qui inquiète les Français et leur pouvoir d'achat. Alors, première question, Benjamin, pourquoi une telle augmentation?
Alors, il n'y a malheureusement pas une seule raison, c'est un peu plus complexe que ça. La première raison, qui est la plus ancienne, je dirais, c'est le fait que, avant, lorsque vous utilisiez un produit fossile, vous n'aviez pas à payer les externalités négatives, essentiellement les émissions de CO2. Et aujourd'hui, il y a une taxe carbone qui fait que quand vous utilisez ces énergies fossiles, vous devez acheter des certificats carbone et ça vous coûte de l'argent en plus. Mais cette raison, elle est un peu derrière nous. beaucoup plus récemment, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, la première, c'est que l'économie est repartie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais avec le redémarrage de l'économie, eh bien, la consommation d'énergie est repartie très fortement à la hausse. Et l'économie asiatique est repartie un peu avant les économies européennes. Et ça, ça fait que le flux de gaz est parti davantage vers l'Asie. En plus, l'Asie paye plus cher son gaz que l'Europe. Et donc, forcément, les exportateurs de gaz préfèrent se tourner vers ces clients-là.
Donc la Russie, finalement, a préféré envoyer du gaz en Chine parce qu'il paye mieux.
Alors, envoyer du gaz, et pour la partie qui était libre, ils ont tenu leurs engagements. C'est important de le souligner parce qu'il y a des présentations des faits qui sont parfois un peu trompeuses. La Russie a honoré ses contrat à long terme, mais après, pour la partie libre du marché, ils ont préféré effectivement envoyer ce gaz vers les clients qui payent le mieux. Et puis, vous avez un autre problème spécifique à l'Europe, c'est que on est sur un marché où en Europe, les sources, il y en a essentiellement quatre, sont pour beaucoup en déplétion. Les quatre sources d'approvisionnement en gaz de l'Europe, c'est la Norvège, et les champs sont en déplétion. C'est le gisement de Groningen, de Groningen aux Pays-Bas, qui est en train de fermer, d'abord parce qu'il était en déplétion puisqu'il y a des problèmes sismiques et donc que les autorités ont décidé de le fermer, donc deux sources qui disparaissent. L'Algérie, où là la situation est compliquée et où les discussions par exemple avec l'Espagne ont été compliquées ces derniers temps, et puis la Russie. Et donc on est effectivement très dépendant de la Russie aujourd'hui, mais grosso modo, on a un marché en plus qui subit un autre sujet, c'est que on est en train d'essayer de sortir du charbon et qu'on ne peut pas remplacer le charbon tout de suite par les énergies renouvelables. Elles ne sont pas prêtes, puis il y a les problèmes d'intermittence. Donc, on développe des centrales à gaz. Et donc, les besoins en gaz ne cessent d'augmenter parce que le gaz est considéré aujourd'hui comme la moins sale des énergies fossiles. Et donc, hausse de la demande, offre contrainte, notamment en Europe, vous avez tous les arguments pour que les prix continuent à monter. Et puis, dans le même temps, vous avez cette taxe carbone qui vient en plus grever la facture de ce qu'on constate ces derniers temps.
C'est très clair et ça dit ce risque de durer. Alors en France, nous, notre première source d'électricité, c'est l'énergie nucléaire. Donc du coup, pourquoi on est soumis également à ces fluctuations et on paye finalement l'électricité si cher?
Alors il y a deux choses. D'abord, le gaz, lui, on l'utilise aussi en France. Donc c'est à peu près, je crois, 34% du chauffage résidentiel qui est fait à partir de gaz. Donc forcément, vous avez une utilisation de gaz en direct et donc une hausse des prix. Et puis après, les marchés d'électricité sont des marchés qui sont interconnectés. Et donc forcément, le prix, c'est comme ça que le marché est organisé aujourd'hui, pour avoir une concurrence, le prix de l'électricité est fait par le prix du dernier kilowattheure disponible, donc le plus cher kilowattheure disponible. Donc aujourd'hui, en Europe, c'est le gaz. Donc le prix de l'électricité augmente aussi en France à cause de cette augmentation globale au niveau européen. Alors on est un peu protégé effectivement par la présence de notre nucléaire, mais on est aujourd'hui sensible à ce mécanisme de marché. Il y a des questions qui se posent aujourd'hui pour le remettre en cause éventuellement et revenir à un système basé sur un prix basé sur le coût des investissements, comme ça a pu être le cas par le passé dans certains pays.
Le gaz augmente, l'électricité risque d'augmenter également, et triple peine, le pétrole également, puisqu'on passe à la pompe, c'est de plus en plus cher. Là, quel est le mécanisme qui fait que ça augmente aussi inexorablement?
Alors il y a deux mécanismes. D'abord, il y a une conséquence directe de ce marché du gaz qui augmente, c'est que aujourd'hui, compte tenu du prix du gaz, on commence à essayer de remplacer le gaz par d'autres sources d'énergie qui sont moins montées. Donc on essaie de remplacer notamment une partie du gaz, peut-être pendant l'hiver, on en parle, par éventuellement des ressources pétrolières. On le voit aussi dans certains pays, l'électricité est devenue trop chère. En Allemagne, certaines locomotives diesel ont vu leur retour sur les rails dans ce pays. Donc c'est le premier mécanisme. Et puis le deuxième mécanisme est le plus important, eh bien, c'est qu'en fait on a mis un peu la charrue avant les bœufs dans le cadre de notre transition énergétique sur les énergies fossiles et sur le pétrole en particulier. C'est-à-dire qu'on a voulu réduire l'utilisation des énergies fossiles et pour ça la première décision qu'on a prise, c'est de réduire l'offre. On a mis en place un coût supplémentaire de la production avec la taxe carbone, première chose, qui est une très bonne nouvelle, mais ça fait un coût supplémentaire. Et puis, on s'est arrangé pour flécher les investissements vers autre chose que les énergies fossiles. Et donc, les conditions de financement de ces entreprises sont moins faciles. Et puis, troisième élément, quand vous êtes aujourd'hui Total, BP, Shell, Eni ou une quelconque société de production pétrolière, il faut quand même être courageux pour se lancer dans des investissements qui portent à 20 à 25 ans, alors qu'on vous entendait tous les jours qu'on vous dit qu'il va falloir se passer de pétrole. Donc, les investissements ont été restreints. Et dans le même temps, on n'a pas du tout profité de la crise sanitaire pour revoir nos modes de consommation. Ce qui était un espoir en début de crise, mais on va consommer en 2022, selon ce que disent l'OPEP et l'Agence internationale de l'énergie, plus de pétrole qu'on en consommait en 2019. Donc on a une offre contrainte et dans le même temps une consommation qui ne faiblit pas. À un moment, on arrive à un effet ciseau et donc à une montée des prix comme celle qu'on voit aujourd'hui sur le pétrole.
Voilà ce qui explique cette hausse à tous les étages, gaz, électricité, pétrole. Merci Benjamin Louvet. Je rappelle que vous êtes gérant matières premières chez Ofi AM.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Numéro spécial best-of de l'Hebdo Patrimoine. Et je vous propose tout de suite qu'on se pose la question, quel est le bilan carbone de notre épargne? En clair, est-ce que votre épargne est propre ou au contraire, est-ce qu'elle finance encore l'économie carbonée? Les explications tout de suite avec nos deux invités de la librairie du patrimoine, Pascal Bossan, auteur du livre « Agir sur la planète en famille » et Jean Carassus, auteur de « Immobilier et bâtiments durables ». Une émission spéciale grande librairie du patrimoine, on s'intéresse au climat, « Agir pour le climat en famille », c'est le dernier livre de Pascal Bossan qui est avec nous, et puis Immobilier bâtiment durable dans un autre registre tout aussi intéressant avec Jean Carassus, professeur École nationale des ponts et chaussées. Pascal, on a besoin de vos lumières pour savoir si notre épargne a une empreinte carbone et comment la mesurer.
Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on sait peu, mais effectivement, l'épargne, de manière générale, peut avoir une empreinte carbone tout à fait importante.
Alors, expliquez-nous, ça veut dire que les sous qu'on a à la banque, ils polluent la planète ou du moins, ils n'ont pas le même poids.
En fait, lorsqu'on détient 3000 euros sur un compte courant classique d'une grande banque française, sur un an, c'est à peu près l'équivalent à un aller-retour Paris-New York en termes d'empreinte carbone. Pourquoi ? Alors évidemment, c'est une empreinte indirecte, mais pourquoi ? Tout simplement parce que les banques, en fait, financent avec notre épargne sur les comptes courants de manière massive les énergies fossiles. Évidemment, s'intéresser au placement de son épargne, ça a un impact extrêmement fort sur le climat. Donc, le premier point, c'est déjà de bien choisir ça ou ces banques courantes. Il y a des banques qui excluent de leur fonctionnement le financement des énergies fossiles. Donc, ça, c'est pour la partie fonctionnement courant. Mmh. Et puis ensuite, on a toute la partie épargne plus long terme où là, on peut tout à fait choisir des investissements fléchés qui vont délibérément, de manière volontaire, pouvoir agir pour la transition écologique.
Transition écologique, ça veut dire exclure en même temps justement ces fameux placements sur l'ancienne économie carbonée.
Alors voilà, essayer. Alors en fait, c'est un sujet qui n'est pas si simple parce que si on exclut tous les mauvais élèves, on peut faire un portefeuille uniquement avec des sociétés de services et finalement on ne va pas tellement accompagner la transition. Donc on doit aussi accompagner les mauvais élèves dans la transition et les pousser, les inciter à aller plus loin dans leurs actions. Après on peut aller quand même jusqu'à une certaine limite, par exemple des portefeuilles avec avec les grands pétroliers, c'est assez difficile à faire passer auprès du grand public, ils ont du mal à est-ce que ce que je comprends tout à fait, à
même s'ils sont en transition.
Voilà, il y a des limites à ne pas franchir.
Ouais, ouais, parce que les grands pétroliers, comme les autres, ils sont sensibles également. Ils savent de toute façon qu'ils vont devoir rebalancer leur mix énergétique, comme on dit. Mais en attendant, on l'a vu.
L'instant, malheureusement, ça va trop lentement.
Ça va lentement. Et puis, ça pose d'autres problèmes. On l'a vu avec le pouvoir d'achat et cette flambée des énergies en ce moment. C'est intéressant ce que dit Pascal Jean, parce que vous avez fait ce test. Vous avez coécrit votre livre à plusieurs mains et vous avez fait le test justement sur chacun des auteurs, votre empreinte. Vous avez eu votre empreinte écologique. Vous avez eu des surprises ?
Oui, effectivement, c'est dans un article qui a été publié dans Réflexion immobilière. Nous étions plusieurs spécialistes de l'immobilier et on a intitulé notre article « De la norme à l'engagement ». C'est-à-dire, on parlait sans arrêt des normes, vous parliez des réglementations thermiques et environnementales appliquées aux bâtiments, mais on s'est dit, c'est bien, on est des professionnels qui essayons de transformer nos professions, mais qu'est-ce qu'on fait nous, à titre personnel ? Et donc, on a mesuré, avec un logiciel gratuit sur Internet, notre empreinte. Alors certains étaient très performants, ils avaient une maison très performante.
En moyenne, juste
Combien on dépense? Combien ben, chacun d'entre nous?
Pascal, hein, je crois que c'est autour de 11 tonnes.
11 tonnes de CO2.
Au niveau de l'empreinte. Hein, le vrai chiffre, c'est l'empreinte, et c'est pas les émissions. Parce que les émissions, c'est uniquement sur le territoire. Donc, quand vous faites fabriquer votre smartphone en Chine, eh ben, c'est compté émissions chinoises.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, il faut compter l'empreinte, c'est-à-dire avec tous les produits importés. Et avec tous les produits importés, on est à 11 tonnes par personne et par an en France, en moyenne. Et moi, je me suis aperçu que j'étais un peu au-dessus de 11 tonnes.
Voilà, vous aviez un collègue.
Et j'avais un collègue qui était à 7-8 tonnes, qui était très performant. Et puis j'en avais un autre qui était à 20 tonnes, parce qu'il voyageait beaucoup, notamment avec l'avion. Et alors donc, on voit bien avec ce type de logiciel l'utilisation de l'avion, on voit bien l'alimentation, en particulier la partie carnée de l'alimentation, on voit bien l'épargne. Une épargne dans un investissement responsable émet beaucoup moins qu'une épargne ordinaire, y compris les unités de compte de l'assurance vie. Il faudrait regarder, ça doit financer globalement, ce sont des obligations qui financent massivement une économie carbonée. Donc on voit bien les possibilités d'amélioration. Mon chauffage, j'ai encore un chauffage au gaz, même si j'avais été subventionné à l'époque pour cette chaudière performante. Aujourd'hui, c'est du gaz fossile. Et faire du décarboné avec du gaz fossile... on ne sait pas faire.
Extrêmement intéressant. Hein. C'est vrai qu'on peut, comme ça, tous prendre notre pouls et cette empreinte. Vous l'avez fait, vous, Pascal? C'est en amélioration continue?
Oui, tout à fait. J'étais un peu moins de 10.
Ah, pas mal.
Après, on a effectivement...
Oui, mais attendez, parce que est-ce que l'année Covid compte quand on ne peut pas voyager du tout? On est obligé de prendre sa voiture ou le train pour aller dans le sud de la France pour les vacances, par exemple, ou dans le nord pour ceux qui sont dans le sud. Mais ça dépend, ça aussi, c'est vrai.
Bien sûr. Après, de manière générale, je pense que ce qui compte, c'est la trajectoire qu'on prend, hein, c'est le chemin qu'on emprunte pour essayer quand même de modifier nos habitudes et puis d'avoir conscience, finalement, des grands postes. Pour revenir sur le sujet du calcul de l'emprunt de carbone, j'en parle dans mon livre, je cite l'application Rift, qui est une application assez récente, qui est dédiée à la mesure de l'empreinte carbone de son épargne.
D'accord.
Donc là, ça peut être intéressant de screener son patrimoine financier pour avoir une idée, finalement, de l'impact indirect de son épargne.
D'accord, on mettra le lien RIFT, R-I-F-T, l'appli pour suivre l'impact carbone de votre épargne. Et on vous demande donc de rentrer vos différents placements, j'imagine. Et puis, on vous dit même... En plus de l'épargne, alors c'est intéressant parce que il y a beaucoup d'épargne en ce moment, hein, parce qu'on aurait économisé collectivement en France près de 200 milliards. Il y a eu évidemment des mécanismes d'aide, hein, ce fameux quoi qu'il en coûte, qui coûte finalement, mais qui nous a permis de passer le cap, tant mieux, ça redémarre très fort. Les Français sont fourmis de manière naturelle, et là, encore plus d'épargne, ça veut dire peut-être un temps idéal pour réorienter finalement vers des placements plus verts.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous on le voit au quotidien, on a de plus en plus une demande spontanée de la part des clients. Et puis, on n'hésite pas à être aussi force de proposition pour essayer justement de flécher différemment, d'orienter différemment les placements. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une nouvelle gouvernance du label ISR qui a été... mise en place.
L'investissement socialement responsable.
Exactement, oui. Merci pour cette précision. Et j'ai le privilège de faire partie de ce comité du label donc, d'investissement responsable renouvelé. Mmh. Et l'objectif, c'est d'améliorer les choses autour de ce label, de donner encore plus de lisibilité, de transparence à l'épargnant, et puis d'améliorer encore la notoriété de l'investissement responsable.
Voilà, notre ami Pascal qui va aller donc tous les deux mois, c'est ça, à Bercy
ouais.
Apporter ses lumières, essayer de mieux flécher l'épargne grâce à ces investissements socialement responsables. Jean, alors bon, évidemment, améliorer la trajectoire est importante, on l'a dit. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau des bâtiments, comme vous nous décriviez tout à l'heure, là, on peut faire évidemment beaucoup. Est-ce que vous avez parlé de greenwashing? Alors, tiens, je connais le terme en français. C'est l'éco-blanchiment.
Absolument.
Vous savez, voilà, je le cite, c'est intéressant. Cet éco-blanchiment, aujourd'hui, on voit dans l'épargne, on a passé le cap. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quelques sociétés qui surfaient sur la vague, qui disaient, voilà, on lave plus vert que vert, ou on épargne plus vert. Là, maintenant, on a passé un cap, parce que dans le bâtiment aussi, ça y est, on a pris conscience des enjeux, on peut plus se cacher derrière des grands mots marketing.
Le mouvement est parti, effectivement. Ça bouge, mais il portait bien son nom, l'immobilier. Hein. Il a longtemps été immobile. Mmh. Et ça bouge, c'est une affaire de génération. Là, vous parliez des jeunes que vous soutenez. C'est une affaire de génération. Les personnes, qui sont souvent en plus des hommes, peut-être moins sensibles, de 60-65 ans, qui dirigent les entreprises, sont beaucoup moins sensibles que les 35-40 ans, qui sont eux-mêmes moins sensibles que les 20-25 ans qui vont arriver ultérieurement. Donc c'est une affaire de génération, on le sent dans tous les métiers, que ce soit les dirigeants de grandes entreprises ou chez l'artisan. On sent bien. Mais ce que je voulais dire également par rapport au placement, à l'épargne, il y a bien sûr une partie importante qui est un placement en immobilier. Que vous soyez propriétaire occupant, oui, ou que vous soyez propriétaire bailleur, ou que vous ayez des actions d'une société qui investit dans l'immobilier. Là, ce qui est en train de bouger, c'est qu'il y a un mécanisme d'obsolescence pour les bâtiments non verts, qui commence à apparaître. Il y a cette notion de valeur verte. Quand le marché immobilier n'est pas tendu, effectivement, si vous êtes sur Paris ou Londres, etc., dans le centre, les gens veulent la localisation, tant pis si c'est pas très vert. Par contre, quand vous êtes dans un marché détendu, c'est-à-dire la majorité des marchés immobiliers en France, en maison individuelle, par exemple, dans un grand nombre de régions, eh bien, si vous avez un diagnostic de performance environnementale, enfin énergique et environnementale, dans les catégories F et G, les notaires, puisque c'est sérieux, c'est à partir des prix réels, les notaires ont montré que les bâtiments qui sont avec un diagnostic C, voire A et B, pour la minorité la plus performante, ont une valeur plus élevée. Mmh. C'est vendu 10%. Les autres, là, les épaves thermiques sont vendues, toute comparaison par ailleurs, hein, sont vendues 10 ou 15%. Et le Parlement, le législateur s'en mêle, puisqu'il dit que les logements de catégorie G, eh bien, s'il n'y a pas des travaux de fait, on ne pourra plus les louer à partir de 2025. Et puis après, ça sera...
2025, 2026, 2028, 2034.
Il y a un calendrier, ça veut dire qu'effectivement, ce sont des bâtiments qui sont de la mauvaise épargne. Du mauvais placement, et donc ça pousse effectivement les propriétaires à, quand ils en ont les moyens, et donc il y a tout le problème de l'aide effectivement.
Mais pour faire le lien, ça veut dire que dans son épargne, qui effectivement, je parle à conseiller en gestion de patrimoine souvent, c'est quoi, c'est de l'immobilier et des valeurs mobilières, mais une grande partie c'est de l'immobilier, et puis le patrimoine des gens à 66% je crois, c'est beaucoup d'immobilier en France, on est très attaché à la pierre. Attention, ça peut aussi, non seulement il faut en mesurer comme on l'a fait pour nos placements, finalement, ce que ça consomme. Et puis, demain, effectivement, essayer de l'améliorer avec toutes les problématiques que ça engendre. Notamment, un fameux DPE qui a eu des petits couacs, ce nouveau DPE.
Oui,
c'est en train de se résoudre.
C'est en train de se résoudre.
Voilà. Attention, néanmoins, il y a des études très sérieuses. Effectivement, un F ou G, on perd de 6 à 18 000 euros sur un bien moyen, 250 000 euros. Donc, c'est quand même pas neutre pour celui qui a ce patrimoine.
Oui, il y a une notion de risque lié au climat. Mmh. C'est ça l'importance de la finance. La finance a commencé à prendre conscience que quand on investit, on prend un risque si on ne tient pas compte du climat. Et donc, effectivement, c'est vrai pour les investisseurs professionnels et c'est vrai pour les particuliers. Mmh. Ils prennent des risques s'ils achètent une maison FEG.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance. Sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine spécial best-of, on continue et on retrouve tout de suite Stéphane Toulieu, le patron d'Atimis Gestion. Une fois par mois dans son podcast, on parle des méga-tendances, ces tendances qui façonnent le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, la discussion porte sur le sport et le business. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fabrice.
On va parler sport et business, sports biz. Quelles sont les tendances à post-Covid ? Première question, Stéphane, quel impact de la crise sur le sport business en 2020?
Alors, tout le monde est au courant, hein, l'année 2020 a été délicate, notamment les ligues professionnelles de sport ont été particulièrement impactées par des stades vides et des événements annulés. Les clubs de sport ont été désertés, hein, la pratique du sport a été plus compliqué. Les sports collectifs ont évidemment bien souffert.
Et pourtant, dans chaque crise, évidemment, il y a des gagnants.
Alors oui, il y a eu un essor incroyable des appareils à domicile. Il y a une affaire américaine qui est cotée, qui s'appelle Peloton. Ce sont des vélos connectés qui a fait un malheur l'année dernière, en 2020. Et puis, il y a des confirmations. C'est par exemple le yoga. Le yoga, c'est une très, très grande tendance des 10 dernières années. C'est suivi dorénavant massivement via Zoom ou via les tutos. Donc, on a le lien, finalement, entre quelque chose de très traditionnel, le yoga et le digital.
Et le yoga et bien sûr tout ce qui s'en suit, c'est-à-dire aussi les équipements pour le yoga, avec des boîtes qui ont fait des profits extraordinaires sur ce secteur.
Comme Lululemon, par exemple.
Lululemon, je vous en ai déjà parlé, effectivement. Alors, en sortie de Covid, on espère évidemment que c'est derrière nous. Qu'est-ce qui change?
Alors, je vais citer le patron de Comcast, qui est un grand propriétaire de droits sportifs et qui dit « People want to have fun ». Je l'ai dit sans l'accent et c'est plutôt mieux comme ça.
Veulent s'amuser.
Exactement, les gens ont envie de s'amuser. Et puis, il y a un gros programme en face de ça, un gros programme TV, puisque devant nous, on a la Coupe du Monde de foot en novembre 2022. Les JO de Pékin, c'est dès février 2022, donc c'est après-demain. Les JO à Paris en 2024, ça c'est pour nous. Comcast a donc les droits des événements, en tout cas JO, jusqu'à Los Angeles en 2028. Et puis, il faut se rappeler que bien cet été, les JO 2021 ont cartonné à la télé, et ce, malgré des stades vides. On prévoyait quelque chose de sinistre, et finalement, on a beaucoup aimé ces JO. C'est plein d'événements qui, en plus, donnent l'envie de pratiquer, et ça fait des tendances tout à fait excitantes, puisque le grand retour des sports collectifs, le foot marche extrêmement bien. L'outdoor, on a tous envie de plein air. Évidemment, on était resté confiné pendant 2 ans, pas tout à fait 2 ans, mais par intermittence pendant 2 ans, on a juste envie de sortir. Et puis, il y a une grande surprise. Moi, je trouve que c'est une surprise, parce que je pensais que c'était un peu ringardisé, en tout cas, c'est ce que disait la presse, c'est que les jeunes qui boudaient les clubs de golf reprennent goût massivement à ce sport qui a 2 avantages. Il a lieu en plein air et entre amis.
Et il quitte un peu son image élitiste également, le golf là, qui revient en force. Dans les vêtements également?
Oui, dans les vêtements, il y a une tendance qu'il faut mentionner, c'est un changement dans les vêtements, puisqu'il y a l'apparition d'une nouvelle tendance, c'est le work leisure. Alors, certains comme moi se sont mis évidemment en smoking tous les matins pour aller travailler, d'autres ont mis des survêtements très moches, et bien là, il s'agit de s'habiller chic et confort, et c'est une grande nouvelle tendance dans le domaine des vêtements, pas seulement pour le sport, mais aussi pour travailler à la maison.
Ouais, on veut vous voir en survêtement. Non, Stéphane, sera peut-être pour la prochaine fois. Tout va donc pour le mieux dans le monde du sport?
Alors, il y a un gros éclat conjoncturel, c'est les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, le Vietnam, il y a quelques semaines, était complètement fermé pour cause de Covid. Ce qui risque de gâcher Noël si, Fabrice, vous n'avez pas encore commandé vos sneakers préférés. Dorénavant, on dit sneakers plutôt que chaussures de sport. Et donc là, il y a un petit sujet. C'est vrai qu'on l'a vu avec la dernière publication d'une affaire comme Nike. Il y a des problèmes d'approvisionnement. Ça sera le sujet très conjoncturel des prochaines semaines.
Quelles autres tendances peut-on noter, Stéphane?
La folie football continue en Europe avec des stades pleins, même si la santé financière des clubs et ligues reste dans l'ensemble préoccupante. Aux USA, chez les jeunes, la NBA, la NFL cartonnent. Ceci étant dit, l'UFC, le Mixed Martial Arts, qui devient légal en Europe, c'est des gens qui font du bourre-pif de façon légale, en train de passer nettement devant le baseball. Du reste, ce qui est intéressant, c'est que le baseball est en train de revoir ses règles pour être un peu moins lassant, pour attirer plus de jeunes. Et puis le bien-être reste incroyablement tendance, on l'a dit, avec le yoga, mais aussi avec le fitness et tout un tas de dérivés du fitness. La tendance est véritablement de sortir de chez soi et aussi de courir de nouveau.
Dans ce contexte, certaines marques tirent-elles leur épingle du jeu?
Alors Fabrice, les dernières études sur les millennials, vous savez, c'est ceux qui sont nés entre 1980 et 2000, et les Gen Z, nés après 95, laissent paraître Nike, comme le grand gagnant du sportswear et du footwear. Il est vraiment devant dans toutes les études. Ceci étant dit, par exemple, à très court terme, Vans, qui est la propriété de VF Corp, cartonne, succès de la série Squid Game sur Netflix oblige, avec ces petites chaussures qu'on rentre sans avoir à faire de lacets. Et puis de nouvelles marques comme Hoka One One dans le domaine du footwear apparaissent. Il y a une compétition permanente, la course est longue et les challengers nombreux.
Et le digital dans tout ça?
Eh bien, le digital a un rôle fondamental dans la distribution. On appelle ça le direct to consumer. C'est un des grands éléments vecteurs de croissance pour Nike, par exemple. C'est le grand gagnant, évidemment, des deux dernières années confinées. Même si les jeunes retournent actuellement assez massivement en magasin, le sport connecté est un des autres gagnants des derniers mois. Dans le domaine du bien-être, le coaching à distance est là pour durer, même si les pratiquants retournent évidemment massivement aussi à la salle. Et puis il y a une tendance déjà réel pré-Covid, mais est-ce encore du sport? C'est le e-sport, c'est-à-dire jouer à des jeux vidéo. C'est beaucoup regardé, notamment via des applications comme Twitch, qui est une propriété d'Amazon. Encore une fois, est-ce encore du sport? On peut le mettre à la limite entre le sport et le e-sport, même si ça fait bien bouger les pouces de nos jeunes camarades.
Le sport, au final, est-ce que c'est une méga tendance, Stéphane, pour les investisseurs?
Alors, il y a une étude assez récente qui est sortie, notamment lancée par Amaury Media et le ministère de la Jeunesse et des Sports en France. Donc c'est tout à fait intéressant. Les Gen Z, donc encore une fois, c'est né après 1995. Elles montrent que le sport est la troisième distraction favorite des Gen Z, au même niveau que la musique ou de regarder des vidéos. 63% des personnes sondées déclarent pratiquer une activité sportive en dehors de l'école et 66% suivent un sport dans les médias, principalement sur le téléphone portable. Et c'est une génération de fans. 14% des 10-18 ans citent spontanément Kylian Mbappé comme leur sportif préféré. Vu les derniers matchs, on comprend pourquoi. 50% des 16-18 ans suivent la page d'un sportif sur un réseau social et 34% ont l'habitude d'acheter un maillot de leur équipe. Vous voyez, Fabrice, en matière de méga tendance, le sport biz est au démarrage d'un super cycle.
Merci Stéphane. Stéphane Toulieu, le président d'Atimis Gestion.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Cette édition de l'Hebdo Patrimoine spécial best-of touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine avec nos invités en plateau pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine. D'ici là, excellente semaine à tous.